Si pour préciser les rapports entre Dante et Averroès, nous voulions adopter la même méthode utilisée dans des cas semblables, par exemple la même méthode utilisée par mon ami Luca Bianchi pour remettre en question le prétendu averroïsme de Boèce de Dacy, c'est-à-dire la détermination du nombre de citations ou de références explicites, les résultats seraient plutôt décevants. Averroès est cité de manière explicite une fois dans l'enfer, c'est le célèbre passage 4-144 déjà cité par Thomas Ricklin, Averroès qui est le grand commento feo, une fois dans le purgatoire, un passage aussi déjà évoqué par Thomas Ricklin, une fois dans la monarchie, une fois dans les banquets et deux fois dans la question. Il s'agit évidemment d'une base textuelle plutôt faible pour évoquer une forme d'averroïsme. Ce qui frappe, c'est surtout la référence isolée du banquet. Si on considère que le banquet est un texte authentiquement philosophique et qu'il devrait correspondre, dans la lecture de plusieurs interprètes célèbres de Dante, de Bruno Nardi à Maria Corti, au point de proximité maximale entre Dante et Averroès ou les dits averroïstes. Pour reprendre une conclusion de Raffaello Morghen dans les actes du colloquio de l'Accademia Nazionale dei Lincei déjà mentionné par Gianfranco Fioravanti, e soprattutto nel convivio e nella monarchia che le tracce di Averroè sono evidenti. Et vis-à-vis de cette référence unique à Averroès, on trouve dans les banquets au moins 5 références explicites à Avicenne, ce qui par ailleurs ne légitime pas l'impression d'un avicennisme de Dante. On pourrait peut-être objecter à cette première remarque qu'il faudrait ajouter aux références explicites celles qui sont implicites. Et en effet, on trouve dans les banquets, également dans la comédie, des allusions à certaines thèses averroïstes. Parce qu'on pourrait effectivement prendre ces allusions comme des indices de l'appartenance de Dante à une tradition averroïste. Je ne le crois pas. Soit parce qu'il s'agit de points très techniques, comme dans le cas des taches lunaires, soit parce qu'il s'agit souvent d'éléments plus ou moins communément acceptés dans la tradition interprétative des textes aristotéliciens. Pour comprendre le rapport effectif de Dante avec Averroès, ou les averroïsmes, pour autant qu'il y ait dans le monde latin quelque chose qu'on pourrait appeler à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe averroïsme, il faudrait évidemment considérer les thèses les plus caractéristiques du Falaisouf de Cordoue. Or, Dante, à ma connaissance, ne semble prendre position sur aucune des thèses d'Averroès sur le statut de la philosophie première, la polémique entre Averroès et Avicenne. Il ne répond pas non plus à la thèse de l'éternité du monde, qui est par ailleurs déjà aristotélicienne et avicennienne. Il faudrait aussi rappeler que la question de l'éternité de Dieu ou du monde, on ne les comprend pas très bien, est l'une de celles qui sont exclues de façon explicite du domaine du désir naturel de savoir, selon Dante. Dante refuse, par exemple, dans le lieu déjà cité de Purgatoire, la thèse de l'unicité de l'intellect possible. Il faudrait alors examiner avec plus d'attention les deux références de la monarchie et du banquet, qui représentent par ailleurs deux citations positives, pour ainsi dire, à savoir deux occurrences où Dante semble effectivement adopter une position averroïste. Je ne souhaite pas m'occuper de la citation de la monarchie, qui fait l'objet de plusieurs interventions dans ces colloques de la part de collègues beaucoup plus compétents que moi. Je me limite à ces sujets à remarquer, comme l'ont déjà montré Jacopo Costa et Jean-Baptiste Brenet, que cette référence puisse être interprétée comme une forme d'adhésion de Dante à la doctrine de l'unicité dans l'intellect possible. Par contre, cette position semble être conditionnée par la relecture thomasienne du texte 36 du troisième livre du grand commentaire Au De Anima. On reviendra en conclusion sur ces points spécifiques. Je voudrais plutôt me concentrer sur la seule et un peu énigmatique citation du banquet dans les convivios. Citation d'Averroès dans le banquet, dans les convives. Elle se trouve, comme c'est bien connu, dans les quatrième traité, et en particulier dans la section qui représente la reprise de la position de Dante sur la limitation du désir naturel du savoir. Dans quelques occasions précédentes, je m'étais déjà arrêté sur la question en proposant l'hypothèse que, justement, la thèse concernant la limitation des prétentions philosophiques pourrait révéler une attitude sur ces points spécifiques résolument anti-averroïste. Il me paraît en effet que l'une des thèses fondamentales d'Averroès consiste dans le fait que nous désirons avoir une connaissance quiditative de Dieu et des substances séparées, et que ce désir est un désir naturel, en opposition à ce que Dante soutient dans les banquets. Récemment, Luca Bianchi, avec sa grande finesse, a soulevé des remarques aussi judicieuses que courtoises à propos de mon interprétation. L'un des arguments plus forts de Luca Bianchi, c'est que les artiens, les artistes, avec peut-être la seule exception de Siger de Brabant, n'ont jamais vraiment affirmé la possibilité de parvenir à une connaissance quiditative complète de Dieu et des substances séparées. Que la connaissance de Dieu postulée par les maîtres de la faculté des arts consiste justement dans la simple connaissance de l'existence de Dieu, de quia et de quelques attributs fondamentaux, et que donc la connaissance quiditative de Dieu n'appartient pas, en définitive, à la tradition averroïste, si celle-ci existe. Les conflits que j'avais proposé à ce sujet entre Dante et l'avéroïsme seraient donc le résultat d'une sous-détermination, pour ainsi dire, de la position des artiens, enfoncée par la thèse de Karl Ostel sur la philosophie médiévale comme projet impossible, et impossible justement dans la mesure où elle postulerait une connaissance quiditative parfaite, déjà en cette vie, des substances séparées. En effet, je ne partage pas la lecture de Karl Ostel, et je suis d'accord avec Luca Bianchi, que je remercie, sur le fait que les anciens semblent se contenter d'une connaissance modique de l'essence divine, ce qui pourrait en effet suggérer, contre mon interprétation, une certaine proximité à ces sujets entre Dante et les anciens. Cependant, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord de préciser des petites choses sur la possible nature anti-averroïste, ou plutôt non-averroïste, de la position de Dante dans le troisième livre du banquet, et ensuite d'essayer d'interpréter la référence explicite à Averroès dans le quatrième traité. En ce qui concerne le premier point, je dois avouer que je continue à croire que la renonciation de la part de Dante au désir de connaître l'essence et substance séparées s'oppose à l'une des convictions fondamentales d'Averroès. Ce qui est en question ici, ce n'est pas seulement l'interprétation correcte de la métaphore du vespertilio, de la chauve-souris, dans le livre Alpha et Laton de la métaphysique, mais plus encore ce qu'Averroès dit dans les Tafsir, commentant le livre Lambda. Je cite, « Quia ista questio est nobilissima omnium qui sunt de Deo, scilicet scire quid intelligit, et est desiderata ab omnibus naturaliter. » La connaissance de l'essence de Dieu, scire quid intelligit, parce que Dieu est noesis noesius, donc la connaissance quiditative de Dieu, est ce que tous désirent, et la visée ultime des philosophes. Or, le commentaire d'Averroès au livre Lambda est un texte très bien connu et très répandu chez les artistes et chez les théologiens. Et c'est difficile de croire que pour les lecteurs médiévaux d'Averroès n'a pas soutenu la thèse selon laquelle nous avons un désir naturel de connaître Dieu et les substances séparées. D'autant plus que celle-ci est l'interprétation que Thomas d'Aquin propose dans plusieurs endroits, et en particulier dans la Somme contre les gentils, de la position d'Averroès. Comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas nier que les anciens admettent par contre seulement la possibilité de parvenir à une connaissance modique, limitée de l'essence divine. Il s'agit en effet d'une position qui répond non seulement aux exigences de la foi chrétienne, mais aussi à ce qu'il dit Aristote dans l'Antique Nicomaque et dans la Métaphysique, avec en refusant la position du poète Simonide. Et ça s'agit d'un thème classique qui se retrouve chez Thomas d'Aquin, chez Henri de Gand, chez Dante lui-même. Mais en effet, à mon avis, ce n'est pas ça le point décisif. La vraie question ne porte pas sur la possibilité effective de parvenir à une connaissance quiditative de Dieu et des substances séparées, ou sur les degrés de cette connaissance, mais sur les désirs d'obtenir cette connaissance. Et d'autre part, pour Averroès, et au moins pour Siger de Brabant, tous les savants, désirent connaître ce que Dieu est, que l'on en vive ou non dans cette vie, à accomplir cette connaissance, ça c'est une autre question. Dante, par contre, nie justement l'existence de ces désirs et le fait à partir de l'impossibilité d'obtenir une connaissance quiditative de Dieu et des substances séparées. De cette manière, je crois que Dante s'oppose, volontairement ou non, c'est difficile de le dire, aux anciennes, à la plupart des théologiens, sauf les théologiens du début du IVe siècle, et surtout à Averroès lui-même. Je me permets de reprendre l'affirmation d'Averroès, qui est à questio est nobilissima omnium, qui sunt de Deo, scilcet, scive quid intelligit, et est desiderata ab omnibus naturaliter, et de la confronter avec la conclusion de Dante, onde, con ciò sia cosa che conoscere Dio e di certe altre cose, quello esso è, non sia possibile alla nostra natura, quello da noi naturalmente non è desiderato di sapere. La distanza entre le projets d'Averroès et celui de Dante à ce sujet continue à me paraître évidente. Un deuxième argument que je voudrais ajouter, toujours à ce sujet, se fonde sur une évidence textuelle. Il me semble que l'argument que Dante utilise dans le dernier chapitre du troisième traité du banquet, qui a fait l'objet d'une analyse très fine par Paolo Falzone, et dont tous les interprètes essaient de retrouver la source, est bel et bien le renversement de l'argument utilisé par Averroès pour montrer la thèse contraire dans les premiers commentaires au second livre de la métaphysique. Et donc, c'est une citation plutôt longue, mais nous pouvons peut-être lire simplement les dernières lignes. C'est « Hoc non demonstrat res abstractat intelligere est impossibile nobis, sicut inspicere solem est impossibile vespertilioni. Quoniam si ita esset, tunc ocio segisset, quia fecit illud quod est in se naturaliter intellectum, non intellectum abalio. Sicut si fecisset solem, non compressum, abalico viso. » Or, il me semble indéniable que la thèse de la limitation du désir de connaître présuppose l'effet de tourner ces arguments d'Averroès contre Averroès lui-même. C'est ce qui montre, de manière opposée, Henri Degas et Godefroy de Fontaine. Le premier, en effet, refuse de renverser l'argument et concède qu'Averroès admet l'existence d'un désir naturel de connaître Dieu. Averroès, commentator philosophi, diceret, pour lire les dernières lignes, quod desiderium hominis esset adsciendum ea, nec sine illorum adeptione cessaret appetitus. Donc, pour Henri Degas, il est évident qu'Averroès admet l'existence d'un désir naturel de connaître Dieu et que ce désir ne peut pas cesser sans l'obtention de cette connaissance, nec sine illorum adeptione cessaret appetitus. Quant à Godefroy de Fontaine, il accepte par contre les renversements de l'argument, et justement peut refuser l'idée d'Henri Degas, selon laquelle au moins les théologiens peut déjà parvenir dans cette vie à une certaine connaissance quiditative de Dieu. Et pot esponi exemplum ad reprobandum dictum historum, et la référence est justement à Henri Degas, sicut etiam reprobato ratio commentatoris ponentes quod substantiae separate secundum se ipsas, possunt apprendi ab intellectu nostro. Et pour lire la suite de cette citation, c'est de autre modo, après l'exposition de la présentation de l'argument d'Averroès, potest argui contra. Cum natura habeo quod est possibile non deficit in omnibus generaliter, in quibus est operatio a consequentum ea quae sunt naturaliter possibilia, sed potius in paucioibus, precipie quantum tales, ergo non debet dici aliquid esse omnibus possibile naturaliter, nisi ab aliquibus attingatur. Ergo, cum non sunt inventi, qui de talibus talem abuerunt intellectum, supponendum est ex hoc, quod hoc non est possibile secundum naturam, sebbene est possibile alio modo, c'est-à-dire selon la révélation ou selon la foi. Et idio natura non egit otiose, et cetera. Ça, c'est le scénario au début du XIVe siècle. Et même si Godefroy de Fontaine et Jean Danscott sont des adversaires sur ce point, ils partagent la même convention. Le renversement de l'argument averroïste, c'est le quod libet 8, la question 7, chez Godefroy de Fontaine est, me semble-t-il, la formulation plus proche à l'argument utilisé par Dante dans le Convivio. Je ne veux et ne peux dire que Dante a connu la question quod libet de Godefroy. Je me limite à observer que la dispute entre Henri et Godefroy, ou pour mieux dire entre Henri, Godefroy et Jean Danscott, était sans doute bien connu dans les écoles des religieux, les scuole dei religiosi, puisque presque tous les maîtres et les lecteurs de théologie au début du XIVe siècle sont pratiquement obligés de prendre une position à ce sujet. Donc, Dante refuse, à mon avis, la thèse capitale qu'Averroès établit dans son commentaire au livre Lambda et, deuxièmement, renverse l'argument qu'Averroès propose dans son commentaire au livre Alpha et Laton. Deux arguments qui me semblent postuler en faveur d'une certaine distance à ce sujet entre les poètes et les falaïsoufs. Mais on pourrait alors poser la question, est-ce que Dante lui-même a conscience de cette distance, de cet écart? Est-ce que Dante lui-même reconnaît sa position comme contraire à celle d'Averroès? Et la réponse est non, mais pourquoi? Pour répondre à cette question, et j'en viens à mon second point, il faut essayer d'interpréter la référence explicite à Averroès dans le quatrième traité et dans la reprise de la question de la limitation du désir de savoir dans le contexte de la discussion sur l'avarice. Rappelons les passages. Quel calomniateur de la vérité, Dante nous dit, pourrait dire que si par leur acquisition les richesses accroissent les désirs et sont donc imparfaites et viles, pour cette raison la science est imparfaite et vile, car en l'acquérant s'augmente toujours les désirs de l'avoir. Répondant à la question dans le chapitre suivant, le chapitre 13, Dante dit que l'on ne peut dire à proprement parler que les désirs de la science s'accroissent, bien qu'ils se dilatent d'une certaine manière. Car ce qui croit à proprement parler est toujours unique. Or, le désir de la science n'est pas unique, mais multiple. L'un achevé, il en vient un autre. De sorte qu'à proprement parler, sa dilatation n'est pas croissance, mais succession d'une petite chose vers une grande. Car, si j'y désire savoir les principes des choses naturelles, aussitôt que je le sais, ce désir est accompli et achevé. Si j'y désire savoir ensuite ce qu'est et comment est chacun de ces principes, c'est un autre et nouveau désir. Et sa venue ne monte pas à la perfection où m'avait amené l'autre. Une telle dilatation n'est pas à cause d'imperfection, mais des plus grandes perfections. Celle de la richesse, c'est vraiment une croissance au sens propre, car elle demeure unique, de sorte qu'il n'y voit aucune succession, en vue d'aucune limite, ni d'aucune perfection. Ce qui frappe dans ces passages, c'est l'allusion à une distinction entre la connaissance de l'existence de certaines choses et la connaissance de leur quiddité, qui contredit évidemment ce que Dante lui-même avait posé au troisième traité. En italien, c'est évident que se io decido di sapere i principi delle cose naturali, incontanente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio, pardonnez la coquille. E se poi io decido di sapere che cosa, donc la quiddité, le quid, e com'è ciascuno di questi principi, questo è un altro desiderio nuovo. On pourrait en effet poser la question de savoir si parmi les principes des choses naturelles, il faut inclure aussi, au moins indirectement, les substances séparées. Dans ce cas, Dante semblerait admettre ce qu'il avait nié dans le troisième traité, à savoir que nous avons un désir, que nous n'avons pas un désir de connaître la quiddité, le que cosa des substances séparées. Dante répète, semble-t-il, la même chose dans la suite de l'argumentation. Si mon adversaire prétend que, comme le désir de savoir les principes des choses naturelles est différent de savoir ce qu'ils sont, de même, c'est un désir différent d'avoir 5 mares d'argent que d'en désirer 1000. Je réponds que ce n'est pas vrai, car la centaine est partie de milliers, et a avec lui un rapport, comme la partie d'une ligne avec une ligne entière, sur laquelle on avance par un seul mouvement. Il n'y a aucune succession et perfection dans les mouvements. Mais connaître quels sont les principes des choses naturelles, et connaître ce que chacun d'eux n'est pas parti l'un de l'autre. Ils ont des rapports semblables à ceux des deux lignes différentes, sur lesquelles on n'avance pas dans le même mouvement. Au moment achevé de l'un, succède le mouvement de l'autre. Ainsi apparaît-il que, du fait du désir de la science ne doit pas être dite imparfaite, comme les richesses doivent l'être du fait de leur désir, selon les termes de la question. Il s'agit d'un passage évoqué aussi ce matin par Enrico Fenzi. Et encore une fois, l'italien est vraiment très, très clair, à mon avis. « Ma conoscere che siano », donc « le quia », l'existence, « i principi delle cose naturali », e conosce quello che sia ciascheduno, le propter quid, le quid, non è parte l'uno dell'altro. Il s'agit donc de sciences différentes, et j'ai du mal à exclure de façon absolue la possibilité que Dante vise ici la métaphysique en tant que science de la connaissance quiditative des principes des choses naturelles. Donc la différence entre les désirs de richesse et les désirs de la science s'appuie sur les principes de la pluralité et de l'autonomie des sciences. La progression de la connaissance scientifique n'est pas la progression sur une ligne continue, mais sur des lignes différentes, sur laquelle, pour citer encore Dante, on n'avance pas d'un même mouvement, au moment achevé de l'un succède le moment de l'autre. Dante introduit alors une troisième objection possible. Mon adversaire peut bien encore objecter à tort, disant que bien que de nombreux désirs s'accomplissent dans l'acquisition de la science, jamais on parvient au dernier, chose presque semblable à l'imperfection de ce qui ne s'achève pas et qui est pourtant un seul et même désir. On répond encore ici que ce n'est pas vrai ce que l'on nous oppose, à savoir que l'on n'en parvient jamais au dernier, pardonnez-moi, il y a encore un coquille, car nos désirs naturels, comme il a été montré ci-dessus au troisième livre, vont vers un terme certain, celui de la science est naturel, de sorte qu'il s'accomplit en un terme certain, bien qu'un petit nombre, sachant mal marcher, achève son voyage. Et c'est ici que Dante introduit la référence explicite à Véroès. Si l'on entend bien le commentateur du troisième livre de l'âme, on entend cela d'après lui. Or, j'avais déjà essayé d'interpréter ces passages sur la base d'une conception élitiste de la philosophie. Seulement un petit nombre d'hommes, sachant bien marcher, est capable de parvenir au dernier désir, et donc d'accomplir les désirs de la science. Toutefois, je n'avais pas considéré la référence exacte au texte d'Averroès. Donc c'est un palinodi. C'est bien connu qu'il y a à ce sujet des interprétations très différentes. Selon Busnelli et Rudimbart, les commentaires 36 du troisième livre, selon Bruno Nardi, les commentaires 5, où Averroès dit que la philosophie a été et est toujours pratiquée dans quelques parties du monde. Je pense que, comme dans le cas de la matière première, Busnelli a raison. Ce n'est pas nécessaire, pour le simple fait que Busnelli est un thomiste, il n'est pas bête. Et surtout qu'il a raison de montrer, comme par ailleurs l'a fait de façon excellente Gianfranco Fioravanti dans sa nouvelle édition du Banquet, que la source de cette référence est Thomas d'Aquin, et en particulier un passage du Superboétium de Trinitate. Question 6, article 4, qu'il faut peut-être citer dans son intégralité. Or, la quiddité des substances séparées, dit Thomas, ne peut pas être connue à partir de ce que nous recevons des sens, comme cela est clair par ce qui a été dit précédemment. Quoi que nous puissions, à partir des sensibles, en venir à la connaissance de l'exister de telles substances et de certaines de leurs conditions. Et c'est pourquoi, par aucune science spéculative, on ne peut savoir de quelle substance séparée ce qu'elle est, quoique par les mêmes sciences spéculatives, nous puissions savoir l'existence et certaines de leurs conditions, par exemple qu'elles sont intellectuelles, incorruptibles, etc. Et là, c'est le passage crucial. Ceci est aussi l'opinion du commentateur au livre 3 de l'âme, quoique Aven Pace, Ibn Bajjah, ait dit le contraire, du fait qu'il estimait que l'équidité des réalités sensibles exprimait adéquatement l'équidité immatérielle, ce qui est évidemment faux, comme le dit le commentateur au même endroit, puisque la quiddité de l'une et de l'autre est affirmée de manière quasi équivoque. Dans ce contexte, Thomas semble en effet présenter Averroès comme un partisan de la thèse de la limitation du savoir, jusqu'au point de nier la possibilité de connaître par une, et je souligne une, science spéculative, la quiddité des substances séparées. Thomas fait en effet ici allusion à la dispute entre Averroès et Aven Pace, Ibn Bajjah. Et c'est précisément cette dispute, selon l'interprétation que je voudrais suggérer aujourd'hui, qui représente l'arrière-plan de la citation de Dante. La question porte justement sur la possibilité de connaître les substances séparées. Rappelons brièvement la position d'Averroès, donc c'est toujours le commentaire 36, texte célèbre que Jean-Baptiste a déjà donné des analyses très fines, dans la belle traduction, dans la Delibera, évidemment. Enfin, si nous posons qu'il est dans la substance et la nature de l'intellect matériel de penser les choses séparées, pourquoi cette intellection n'est-elle pas conforme, non curit cursus dans la traduction de latine, à nos intellections des formes matérielles, en sorte que cette intellection fasse, elle aussi, partie des sciences théoriques et constitue la demande d'investigation d'une des sciences théoriques. Avin Pace, Ibn Bajjah, semble emprunter sur ces points deux directions, donc une direction naturelle et une direction divine. Bref, dans l'épi de la jonction, il dit « Et quand le philosophe sera arrivé au terme de cette ascension, c'est-à-dire la progression dans une science théorique, contemplant l'intelligible en tant qu'intelligible, alors il pensera les substances séparées. Est-il manifeste que, par là que, selon lui, l'intellection de cet intelligible est une partie des sciences théoriques, à savoir la science naturelle. Mais s'il est né ainsi, dit Averroès, l'ignorance de cette science, de l'intelligible séparé, peut avoir trois causes pour nous les hommes. Un, soit nous ne connaissons pas encore les propositions qui nous conduiraient à cette science. Deux, soit ces types de pensées s'acquièrent par l'exercice et l'usage des choses de la nature, et nous n'avons pas encore assez d'exercice ni assez d'usage pour pouvoir acquérir cette intellection. Trois, soit enfin pour des raisons naturelles à cause d'un défaut de notre nature humaine. Mais alors, si notre ignorance de cette science provient d'un défaut de notre nature, c'est le troisième cas, alors nous tous qui sommes nés pour acquérir cette science, nous sommes dits hommes en un sens homonyme. C'est quelque chose qui, dans ce contexte, Averroès refuse. Si elle provient de l'ignorance des propositions menant à cette science, le premier cas, c'est que la science théorique n'est pas encore achevée. Et Avin Pace dit que c'est peut-être déraisonnable, mais pas impossible. Et si cela provient d'un manque d'usage, deuxième cas, ce discours est proche de celui qui pose que la cause de notre ignorance est l'ignorance des propositions menant à cette science. Donc, ce cas s'est réduit au premier cas. Mais en effet, dans la suite du commentaire, Averroès concède la possibilité d'apparvenir à la connaissance des substances séparées, en l'occurrence de l'intellect agent, évidemment, par l'application à l'ensemble des sciences théoriques. Il convient de citer de nouveau le passage en question, même s'il est bien connu. Et lorsqu'il est né ainsi, que cette jonction avec l'intellect agent est accomplie, il est nécessaire que par cet intellect, l'on pense tous les êtres par un intellect qui lui est propre et effectue sur tous les êtres l'action qui lui est propre, qui est de penser. De la même manière que par l'intellect en habitus, il pensait tous les êtres par une intellection qui lui était propre quand son intellect était joint aux formes imaginables. Donc, c'est vraiment l'application de la théorie hylémorphique, comme Jean-Baptiste l'a dit de façon magnifique ce matin, une double application, c'est-à-dire par le rapport entre l'intellect agent et les intelligibles spéculatives, et l'intellect et les intelligibles, et après les fantasmes de la cogitative humaine. De là apparaît, selon ces mots, l'homme est donc, comme l'a dit Themistius, semblable à Dieu, car il est d'une certaine manière tous les êtres, il les connaît tous en quelque manière. En effet, les êtres ne sont rien d'autre que sa science, et la cause des êtres n'est rien d'autre que sa science, et que cet ordre est admirable, et que ce mode d'être est extraordinaire. Et la chose la plus importante pour nous et pour Dante, c'est la conclusion de ce passage. De là apparaît aussi que son intellection n'est pas l'une d'entre les sciences théoriques, mais l'aboutissement naturel, curvens cursu, de l'apprentissage, discipline, des sciences théoriques. C'est pourquoi il n'y a rien d'absurde à penser que les hommes s'entraident sur ces rapports in ac intentione, comme ils s'entraident dans l'apprentissage de chacune des sciences théoriques prises séparément. Mais il est nécessaire que cela, étant l'aboutissement de l'apprentissage des sciences théoriques, soit découvert à partir des sciences théoriques, et non d'autres. Donc c'est à partir de ces passages que Thomas d'Aquin a pu tirer d'Averroès l'idée d'un aboutissement naturel de l'apprentissage ou de la connaissance. La différence entre Averroès et Ibn Bajjah étant que selon ces derniers, la possibilité de la connaissance des substances séparées se fait par la progression dans une seule science théorique, Tandis que par AVROS, elle dépend de l'apprentissage, même collectif, de l'ensemble des sciences théoriques, qui permet la jonction avec l'intellect agent par les intelligibles. Et c'est à partir de cette interprétation particulière déterminée de Thomas d'Aquin que Dante a pu, à son tour, faire d'AVROS un partisan de la thèse de la perfection limitation du savoir et élaborer l'alternative entre deux façons différentes de comprendre la progression du savoir. La progression sous une seule ligne continue, une seule science théorique, à savoir la thèse d'Avempace, d'Ibn Bajjah, et celle sur plusieurs lignes qui permet l'aboutissement du savoir ou de l'apprentissage. C'est la thèse d'Averroès dans l'interprétation thomasienne, qui néglige complètement dans le contexte de Super Boetium de Trinitate toute référence à la doctrine de l'unicité de l'intellect possible. Dans ce contexte, Thomas ne critique pas Averroès pour la thèse de l'unicité de l'intellect. Il dit que la thèse d'Averroès est correcte par rapport à la thèse d'Ibn Bajjah. Il serait évidemment possible d'ajouter plusieurs remarques ou de poser plusieurs questions au sujet de cette interprétation. Tout d'abord, on pourrait poser la question de savoir si Dante a connu le Super Boetium de Trinitate. Pour l'instant, on pourrait simplement observer que Dante connaît sans doute le troisième livre de la Somme contre Gentiles, où Thomas d'Aquin propose la même interprétation et la même opposition entre Averroès et Ibn Bajjah, Avempace, même si dans ce contexte, il mentionne et critique la doctrine de l'unicité de l'intellect possible. Un seul exemple tiré du chapitre 43 du troisième livre de la Summa Contra Gentile. Or, ces progrès et ces mouvements vers la continuité avec l'intellect agent se fait par l'application aux sciences spéculatives, c'est-à-dire à l'ensemble des sciences spéculatives, qui nous font acquérir des intelligibles vrais et qui dissipent les opinions fausses. Étrangers à l'ordre de ces mouvements, comme les monstres sont étrangers à l'ordre de l'opération naturelle. C'est une citation littérale du passage du commentaire 36 d'Averroès. Et encore une citation littérale. Aussi, les hommes s'entraident-ils en vue de ces progrès comme ils s'entraident dans les sciences spéculatives. Une deuxième remarque concerne le fait que c'est probablement à partir de ces textes et de cette interprétation thomasienne d'Averroès que Dante a tiré la thèse de la monarchie, c'est-à-dire la coopération des hommes dans l'application aux sciences spéculatives. Donc, j'avais déjà mentionné l'interprétation de Jacopo Costa de Jean-Baptiste. Il faut la relire. Les hommes s'entraident en vue de ces progrès comme ils s'entraident dans les sciences spéculatives. Dit Thomas, reprenant l'affirmation d'Averroès, c'est pourquoi il n'y a rien d'absurde à penser que les hommes s'entraident sur ces rapports comme ils s'entraident dans l'apprentissage de chacune des sciences théoriques prises apparemment. On peut en effet garder cette partie de la position d'Averroès sans s'adhérer de façon nécessaire à la thèse de l'unicité de l'intellect possible. Une troisième remarque concerne le fait que dans ce contexte, dans cette interprétation, à l'opposé d'une vulgate herméneutique répandue qui concerne les dites averroïstes latins, Averroès nie de façon absolue l'équivocité de l'espèce humaine. Homme ne peut jamais être un terme équivoque. Pace obri de Reims. On peut relire l'affirmation d'Averroès. Si notre ignorance de cette science provient d'un défaut de notre nature, alors nous tous qui sommes nés pour acquérir cette science, nous sommes dits hommes en un sens homonyme. Et c'est ça qu'Averroès va refuser. Et dans le quatrième traité du banquet, Dante également semble refuser l'hypothèse d'une équivocité radicale du terme homme, sujet de laquelle il avait hésité un peu dans les troisièmes traités. On pourrait évidemment ajouter ou objecter encore plusieurs choses. Si je devais résumer ma thèse aujourd'hui en seule ligne, je dirais que l'Averroès du banquet, je ne sais pas, peut-être aussi l'Averroès de la monarchie, mais comme je le répète, je laisse de côté cette interprétation, et l'Averroès lui est interprété par Thomas d'Aquin dans le contexte de la discussion sur la possibilité de connaître les substances séparées. Un Averroès très partiel, évidemment, dont certaines thèses sont neutralisées, en particulier la doctrine de la jonction et celle de l'unité de l'intellect possible. Ainsi, de facto, en ce qui concerne la limitation du désir, la position de Dante reste éloignée de celle d'Averroès, même si Dante lui-même fait appel à Averroès pour la soutenir. Je conclue par une petite considération personnelle sur la nature de ce paradoxe. Il y a évidemment plusieurs avéroïsmes et plusieurs avéroès. Nous avons écouté Alain Delibérat, Jean-Baptiste Brenné, Gianfranco Fioramanti, au Moyen-Âge comme dans l'historiographie contemporaine. Mais finalement, c'est précisément cette pluralité qui rend l'étude de la philosophie médiévale ainsi passionnante. Les médiévaux sont toujours irréductibles à tous les ismes, à toutes les étiquettes historiographiques, à toutes les familles doctrinales, à tous les schémas essentialistes. Et Dante, qui n'est pas un philosophe de profession, est plus irréductible, si possible, que les autres. À la fin, l'idée de cette pluralité irréductible et de la nécessité de faire toujours une histoire ponctuelle liée à la transmission d'un corpus déterminé de questions et de réponses n'est-il pas ce que notre hôte ici au Collège de France nous appuie. Je voudrais donc terminer en remerciant Alain Delibérat et en vous remerciant pour votre patience et votre attention.